Cher Monsieur Barbier, les amis de la vie sont vraiment heureux de vous recevoir ce matin. Et en fait, les Nantais ont l'habitude de vous voir et de vous écouter à la folle journée depuis l'origine. Mais donc, à l'intention des non-Nantais, de ceux en fait qui sont venus des autres régions de France et même de Suisse, d'ailleurs. Je salue nos amis suisses qui sont dans la salle. Je vais vous présenter brièvement. Vous êtes nantais d'origine. Vous avez fait des études de musique et d'italien. Vous êtes d'ailleurs docteur. Vous avez un doctorat d'italien. Vous avez enseigné l'histoire de la musique à l'université d'Angers, la Cato. Et vous êtes spécialiste de la musique romantique et baroque. Vous êtes aussi écrivain. J'ai dénombré 12 ou 13 livres, mais j'en ai peut-être oublié. Vous avez écrit sur l'histoire des castrats. Vous avez écrit sur Farinelli. Vous avez écrit sur la Venise de Vivaldi. Vous avez écrit sur Naples en fait. Et vous avez sorti un ouvrage en début d'année, Voyage dans la Rome baroque. Ce livre est d'ailleurs avec d'autres à la librairie et vous avez accepté de mettre une petite dédicace sur le livre si on vous le demandait. Nous vous en remercions d'avance. Vous êtes un membre actif de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de Loire. Vous êtes fondateur du Centro Studi Farinelli à Bologne, c'est exact. Vous êtes aussi officier dans l'ordre des palmes académiques. Vous êtes aussi producteur d'émissions où vous avez été à France Culture. Vous êtes en plus de tout ça un ami de René Martin depuis de longue date. J'ai même lu que vous aviez chanté avec lui. Vous aviez 16 et 17 ans, et lui aussi, ou un petit peu plus. Et en fait, vous avez aussi écrit un livre sur Nantes et l'opéra, en 1999. Et en fait, c'est en fonction de ça où vous êtes ici ce matin. Étant donné que l'art s'inscrit dans une époque et dans un lieu, et en fait, vous allez nous dire... vous allez nous dire de quelle manière la musique s'inscrit à Nantes depuis ces derniers siècles et de quelle manière elle vit aujourd'hui. Vous aurez d'ailleurs, après la pause, un exemple vivant de la richesse de cette vie à Nantes avec un invité qui va venir nous rejoindre après la pause. Eh bien, c'est à vous et on vous écoute avec attention. Merci.
Bien, bonjour à tous, je suis évidemment très très heureux d'être ici, vous vous en doutez, très honoré, doublement honoré, même honoré à titre personnel, que vous ayez choisi un musicologue nantais pour ce petit voyage dans la musique à Nantes, et puis honoré aussi que la ville de Nantes soit choisie pour un congrès lié à l'art et à une réflexion sur l'art, puisque c'est vrai que c'est une ville très riche depuis au moins le 15e siècle et jusqu'à aujourd'hui, et que c'est vrai que la vie culturelle nantaise, on en parle beaucoup, et en même temps, avec beaucoup de modestie, je dois dire que bien d'autres villes de France pourraient être choisies pour aussi parler de l'art, parce que quand même, il y a la culture et la vie artistique sont bien servies aussi dans d'autres villes, mais c'est vrai que Nantes a une richesse qui lui est propre, je pense, et notamment à travers ce fameux théâtre dont je vais vous parler, mais aussi avec des je dirais des spécialités un petit peu plus récentes, et notamment cette folle journée avec laquelle je conclurai mon propos. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention, vous vous en doutez bien, de vous raconter ce matin l'histoire de la musique à Nantes, parce qu'en une heure à peine un quart, ce serait vraiment un peu difficile. C'est une petite histoire de la musique à Nantes, ça va vous permettre de voir quelques spécificités nantaises, écouter quelques extraits musicaux, bien entendu, quelques images, mais parfois c'est très difficile, hein, comment illustrer la maîtrise au 15e ou au 16e siècle. Nous n'avons pas de documents, nous n'avons encore moins de photos, d'iconographie, donc je ne peux pas tout illustrer, vous vous en doutez bien. Mon propos commence quand même en 1413, et encore une fois, je ne vais pas parcourir ni toutes les années, ni toutes les décennies, ce serait impossible, mais peut-être quelques moments clés. Pourquoi 1413, c'est une date importante? C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans l'article que j'ai écrit pour ce beau livre sur la cathédrale de Nantes. Vous savez qu'il y a toute une série de livres qui s'appelle « La grâce d'une cathédrale ». Plusieurs cathédrales de France ont été prêtées maintenant. C'est une collection superbe, je dois dire. Et le livre sur la cathédrale de Nantes, donc commandé et organisé par Mgr Jam, c'est vrai que c'est vraiment un très très beau livre. Et on m'a confié toute cette partie sur l'histoire de la maîtrise depuis 1413 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce que Nantes a eu une place particulière avec cette maîtrise, notamment pendant l'Ancien Régime, mais aussi, bien entendu, on le verra, au 19e et au 20e, et a fait partie certainement des grandes maîtrises de France. Donc mon point de départ, ce 1413, c'est plus une date, si vous voulez, c'est quand cet évêque nantais, Henri le Barbu, a voulu créer cette maîtrise, qui était évidemment extrêmement modeste à l'époque, avec 6 enfants seulement, et des chanoines. Bien entendu, on va chercher à toutes les époques, avec ses enfants, vous le savez bien, là j'enfonce des portes ouvertes, hein, à compenser évidemment l'absence de femmes, puisqu'aucune femme ne chante à l'église catholique dans aucun pays, jusqu'au 19e siècle, fin 18e dans certains endroits, 19e dans d'autres, jamais aucune femme n'a chanté en public dans aucun édifice religieux. Donc en public, hein, à l'exception des religieuses, des nonnes dans leur couvent, ça évidemment elles avaient le droit de chanter entre elles, mais jamais en public. Donc évidemment, on a toujours compensé par des voix d'enfants, et puis bien entendu, vous le savez, les Italiens ont trouvé une autre solution, qui est la castration des jeunes garçons, sur laquelle j'ai aussi beaucoup travaillé, et qui va évidemment remplir l'Europe catholique de ces fameux castrats chanteurs, qui vont avoir tous les atouts d'une voix de femme, mais dans un corps d'homme. Alors, cette cathédrale, évidemment, n'était pas celle-là en 1413, je ne peux pas vous montrer autre chose, mais malheureusement, je ne peux pas vous montrer la cathédrale qui était là avant, la cathédrale romane du XIe siècle. C'est dans cette cathédrale romane qu'est née cette maîtrise, et elle avait été installée dans une salette. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e salette, hein, à Nantes, comme lieu, je dirais, réservé à la musique et au chant. Mais je montre cette photo de la place Saint-Pierre à Nantes parce que ça, pour les Nantais et les autres d'ailleurs, ça vous montrera cet emplacement qui évidemment aujourd'hui est un immeuble qui n'a rien à voir, mais c'est exactement là, à l'angle de la rue du Roi Albert, que se trouvait cette première salette, donc, qui a été organisée pour les chanteurs, construite pour les chanteurs, avec une vie très très dure, hein, pour ces enfants qui se levaient à 4h du matin en été et qui avaient 3 repas frugaux dans la journée et passaient leur temps à travailler la musique. Et puis en 1434, donc quelques années plus tard, sort de terre, hein, évidemment c'est le tout début de la construction de la cathédrale actuelle, et donc cette cathédrale est donc bien du 15e siècle, mais bien entendu elle a mis énormément de temps à se construire, parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de tranches de travaux et d'arrêts et de moments de suspension, de sorte qu'on ne l'a vraiment fini qu'au 18e et même encore au 19e siècle. Donc c'est un travail sur plusieurs siècles, ce qui est fréquent dans nos cathédrales françaises, bien sûr. C'est ce qui rend encore plus incroyable la construction de Saint-Pierre de Rome, qui s'est faite exactement en 120 années. Ça paraît invraisemblable qu'on ait pu en 120 ans construire une basilique aussi gigantesque que Saint-Pierre de Rome, quand beaucoup de nos cathédrales ont pris 2, 3, voire 4 siècles pour être totalement achevées. Le répertoire, donc je vais très très vite parce que je ne peux même pas vous donner des choses très précises, on manque vraiment de sources. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'au XVIe siècle, on a vraiment développé à Nantes ce qui était à la mode un peu partout en Europe d'ailleurs, c'est-à-dire ce style de la polyphonie de la Renaissance, cette polyphonie savante avec ses entrées en imitation qui donne évidemment cet esprit très aérien et extrêmement céleste à la musique, dans l'esprit Palestrina, qui était le premier modèle évidemment de ce type de musique à Rome. Et puis au XVIIe siècle commence à s'installer évidemment progressivement, s'installe cet art baroque, cette musique baroque que vous connaissez bien aujourd'hui, c'est-à-dire qui commence à faire introduire des musiciens, introduire donc un accompagnement musical. Et c'est là donc dans les années 1619-1620 qu'a été construit le premier orgue, Girardet, donc, qui a été installé dans la cathédrale. Il n'y avait pas d'orgue avant 1719-1620, enfin pas d'orgue fixe en tout cas. Et à ce moment-là, la psalette va s'installer sur le côté, donc très difficile de se rendre compte de ce qu'a été le travail musical dans une cathédrale toujours en construction. D'ailleurs, c'est une question que je me pose aussi pour Saint-Pierre de Rome, puisque je viens d'écrire ce livre sur Rome, vous venez de le dire, cette construction de Saint-Pierre de Rome, vous savez, où on a chapeauté l'ancienne basilique par la nouvelle actuelle, et on a construit l'une par-dessus l'autre, et on détruisait l'une pendant qu'on construisait l'autre. C'est très très difficile d'imaginer pendant 120 ans ce qui a pu être le travail musical, ce qui a pu être le chant parmi les travaux, dans les gravats, tout ça est assez complexe évidemment, probablement dans des chapelles latérales, et on devait réserver des coins à l'office et à la musique, mais certainement ça n'était pas simple, en tout cas dans ce vaisseau tout à fait extraordinaire. Je pense à ceux qui ne sont pas nantais ou qui ne seraient jamais venus à Nantes, ne manquez pas de voir cette cathédrale qui est par la quatrième ou cinquième plus haute de France pour les voûtes intérieures. Donc cette espèce d'élancée, vraiment de lancée magnifique, et cette verticalité tout à fait impressionnante. Et donc sur le côté gauche de la cathédrale, à l'arrière, donc ici, se trouve un hôtel à la mansarde, qui a été la deuxième salette, qui a été le deuxième lieu pour les musiciens. Mais la véritable extension se fait au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, donc là, on va avoir vraiment l'entrée d'instruments de violon, de hautbois, on a presque un petit orchestre qui s'installe, on est maintenant sur 25-30 chanteurs, et le XVIIIe siècle, c'est un peu le dernier grand siècle de la maîtrise avant, évidemment, la Révolution française. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a 450 maîtrises en France, que c'est le principal mode d'éducation à la musique, il n'y en a pas d'autre, hein, évidemment. Les conservatoires n'existent pas encore, donc toute l'éducation musicale de la jeunesse se fait à travers ces maîtrises, qui est quand même un travail absolument fabuleux, et on ne redira évidemment jamais assez ce qu'a été la perte terrible pour l'éducation musicale en France, que les Anglais n'ont pas connu, eux qui ont toujours continué la tradition d'élever les enfants dans la musique, jusqu'à ces chœurs fabuleux que vous écoutez aujourd'hui à Cambridge ou Oxford, eux n'ont jamais eu cette coupure qui a été rédhibitoire, je dois dire, et qui a complètement, si j'ose dire, déglingué notre éducation musicale française. Ces 450 maîtrises se sont maintenues jusqu'à la Révolution, et la maîtrise de Nantes, donc, elle a duré jusqu'en 1790, au tout début de 1791, avant que tout s'arrête, évidemment, et à partir de 1793, vous savez, à Nantes, dans les documents, on dit la ci-devant cathédrale, hein, la ci-devant cathédrale, qui est donc désaffectée, bien entendu. Les tombeaux des évêques ont été profanés, beaucoup de toitures ont été brisées, les panneaux de certaines parties de la cathédrale ont été démontés, et seul l'orgue Cliquot, qui avait été construit sous l'Ancien Régime, est resté par la bonne idée de l'organiste de l'époque, qui avait dit aux révolutionnaires, bien tiens, cet orgue, ce serait formidable pour pouvoir accompagner des chants révolutionnaires. Alors du coup, évidemment, les révolutionnaires ont dit, quelle bonne idée, tiens, on va maintenir cet orgue. Et voilà comment on a sauvé cet orgue Cliquot, qu'on va ensuite développer au XIXe siècle, je vous en parlerai tout à l'heure, pour devenir le grand orgue d'aujourd'hui. Cet orgue Cliquot qui datait de 1784, donc vous voyez, peu de temps avant la Révolution française. Et donc voilà, la dernière salette, je la montre maintenant, mais elle a été vraiment, installée là beaucoup plus tardivement au 19e, même à la fin du 19e, dans un très beau logis du 15e, que vous voyez aujourd'hui, tous les Nantais le connaissent bien, d'ailleurs nous l'appelons la psalette hein, aujourd'hui, mais cette salette du 15e avait été rachetée par l'évêché au début du 19e, et au cours du 19e siècle, on va installer les enfants chanteurs dans ce bâtiment-là, qui lui est toujours bien présent aujourd'hui, de sorte que, comment aujourd'hui, on a la chance de conserver ce lieu de l'éducation musicale des enfants, même si ce n'est plus là aujourd'hui que se font les cours pour les actuels maîtrisiens. Voilà. Alors, je voudrais rappeler que la Révolution française est un bouleversement très important. Là, je vais au-delà de Nantes. Hein, pour vous rappeler que le Conservatoire de Paris est né en 1795. Il est une œuvre purement révolutionnaire. Et c'est important de le dire, parce qu'on a vraiment remplacé un système par un autre. Je dis une chose qui est connue, mais peut-être pas si on n'est pas versé dans la musique. On avait une éducation musicale qui était totalement aux mains de l'Église, jusqu'à la Révolution, qui a été prodigieuse dans l'éducation des enfants, parce que vraiment ces enfants-là avaient déjà à l'époque un nombre d'heures d'éducation musicale et vocale très important par semaine, ce qui ne les empêchait pas d'étudier autre chose, le latin, la grammaire et d'autres choses. Le conservatoire, c'est une autre vision, c'est une vision totalement nouvelle, une version complètement laïque évidemment de l'éducation musicale, et surtout une vision adulte, c'est-à-dire que le Conservatoire de Paris ne prend plus que des adultes, d'abord essentiellement des hommes, puis très vite on se rend compte que là on ne peut pas faire autrement que d'accepter des jeunes femmes, on en a besoin pour le chant mais aussi pour les instruments, ça devient donc mixte très vite, mais pendant des décennies à Paris et au Conservatoire il y avait l'entrée des garçons et l'entrée des filles qui jamais ne se croisaient au cours d'une journée. Hein. Et Berlioz, évidemment, le grand romantique français dans les années 1830, nous raconte comment un jour, par erreur, mais c'était peut-être pas une erreur, c'était peut-être volontaire, il est passé par l'entrée des filles et il s'est fait sérieusement rabrouer par Cherubini, qui était le directeur du conservatoire. C'était bien deux éducations en parallèle, mais quand même dans un même bâtiment. Vision laïque, post-révolutionnaire, et avec des adultes, et ça va être évidemment la nouvelle conception de la musique, mais qui va totalement priver la base, c'est-à-dire le monde de l'enfance, de cette fameuse éducation musicale dont je parlais. Pour le moment, j'en reste là, à l'Ancien Régime, et je reviens maintenant sur un autre aspect, donc à la même époque, toujours sous l'Ancien Régime, d'une vie musicale à Nantes. C'est intéressant de voir deux choses. D'abord, parce qu'à Nantes, je n'ai pas de photos, nous n'en avons pas du tout. Quand j'ai écrit mon livre sur le théâtre Gralin, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé de document de l'ancien opéra de Nantes, donc ce n'est pas ce que vous voyez là, puisqu'on n'a pas d'illustration. Nantes a bien eu, donc à partir de 1660, vous voyez, donc on est 1660, c'est l'année du mariage de Louis XIV, hein. Eh bien, en 1660, nous avons un premier théâtre d'opéra à Nantes qui se trouve dans une rue qu'on appelait à l'époque la rue Bignon-Létard, qu'aujourd'hui on appelle la rue Rubens. Donc c'est une petite rue piétonne chez nous aujourd'hui, peu connue peut-être, hein. Mais enfin, pour les Nantais, la rue Rubens peut dire quelque chose. Et c'est là que s'est trouvé donc ce théâtre d'opéra qui a précédé l'opéra actuel. Et c'est intéressant parce que là, on voit bien qu'on a commencé donc dès la fin du XVIIe à Nantes à jouer des opéras de Bunny et ensuite des opéras de Rameau. Et un peu plus tard, donc tout à fait au début du règne de Louis XVI, à y jouer les opéras comiques qui étaient très en vogue dans toute la France, les opéras de Grétry, de Philidor, de Monsigny. Donc une présence évidemment de l'opéra assez tôt dans un théâtre qui n'existe plus, dont on sait qu'il n'était pas suffisamment grand, très vite il va devenir trop petit justement, mais c'est une chose quand même qu'il faut signaler. Et puis la deuxième chose que vous voyez là, c'est notre mairie actuelle, hein. Enfin en tout cas l'un des deux grands bâtiments de notre mairie actuelle, l'hôtel de Rosnadec, qui était en fait, qui a été la première académie de musique à Nantes. Donc ça aussi c'est intéressant de le signaler, ça a été fondé par le maire Gérard Mélier au XVIIIe siècle, et en fait ce sont les négociants de ce qu'on appelait la fosse, le quai de la fosse à Nantes, hein, et l'île Feydeau, c'est-à-dire ces grands armateurs, qui vont financer une académie de musique. Donc là on se projette vraiment dans une imitation de ce qui se fait déjà à Paris. Vous savez peut-être ou vous ne savez pas, je vous le précise, que le premier concert public à Paris date de 1725. Vous voyez, nous sommes sous Louis XV, et c'est la première fois à Paris qu'il y a un concert public, c'est-à-dire c'est la première fois en France que vous pouvez acheter un billet pour aller au concert. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'être invité par un prince, vous n'avez pas besoin de faire partie des invités, donc d'une certaine élite, qui va avoir droit à entrer dans des salons privés ou des palais. voilà que n'importe quel Parisien, alors évidemment n'importe quel Parisien, entendons-nous, hein, sans doute pas une poissarde des Halles ne devait pas aller au concert spirituel. Mais il n'empêche que quand même beaucoup de gens d'une petite bourgeoisie parisienne achètent un billet et vont pouvoir aller donc aux Tuileries, mais ça n'a rien à voir avec le roi, simplement que le roi prête une salle dans les Tuileries, voilà que le concert spirituel, c'est comme ça qu'on l'appelle, apparaît en 1725. Donc ça fait boule de neige, hein, cette idée du concert public fait boule de neige. Beaucoup de villes de France commencent à s'intéresser à cette idée. On va l'appeler sous des formes différentes. Nous l'avons appelé tout simplement Académie de musique. Et c'est dans l'hôtel de Rosmadec que vous voyez là, que vous voyez aujourd'hui, hein, c'est toujours le même, qui est donc la salle, le bâtiment réservé aux, je dirais, aux réceptions et aux mariages, dans une salle que les Nantais connaissent bien, puisque qu'elle soit sous cette forme ou sous cette forme, c'est toujours la même. C'est là qu'ont lieu toutes les réceptions et tous les cocktails nantais organisés par la mairie. Eh bien, là, on a un lieu pour la musique qui est évidemment intéressant et qui montre une certaine, un certain goût, on va dire déjà, pour une musique, disons, symphonique, voire aussi, comment dirais-je, musique instrumentale à petits effectifs. Et on sait qu'on y faisait surtout les répétitions, certainement quelques petits concerts, mais surtout les répétitions, c'était en quelque sorte le siège de l'Académie, mais l'Académie se produisait surtout dans différents lieux nantais, bâtiments ou églises, bien sûr. Et là, j'en arrive donc à la naissance d'un lieu qui va être très important, et je vais développer un petit peu, ce sera, je pense, peut-être un rappel agréable pour les Nantais et une découverte pour les autres. C'est-à-dire un lieu qui a été essentiel dans la vie musicale nantaise de sa création en 1788 jusque, je dirais, dans les années 1970. Et vous verrez pourquoi. Parce qu'après, il y a une telle explosion des possibilités musicales et à Nantes, entre les concerts, les festivals, tout ça va exploser littéralement. Mais jusque-là, quasiment, le Théâtre Gralin va être le phare, le centre de toute vie culturelle et musicale à Nantes, et notamment aussi bien sur le plan du spectacle de théâtre parlé, tragédie, comédie, que de l'opéra, que de la musique purement instrumentale, du concert. Donc tout part de ce Jean-Joseph Gralin que vous voyez là, donc grand receveur des fermes du roi, un homme extrêmement riche évidemment, qui va, je dois dire, bien rendre à la ville la fortune qu'il a accumulée, puisque c'est lui qui va donc proposer la construction de tout un quartier à partir des années 1770. Le duc de Pintin-Sièvre, qui représente le roi dans la ville, propose donc, accepte que Gralin achète toute une colline, c'est toute la colline actuelle sur laquelle se trouve la place Gralin, cette colline qui va donc du port et qui monte comme ça jusqu'à Gralin et au-dessus de la place Gralin, donc ici vous voyez bien la place Gralin et les rues adjacentes, tout ça était totalement vide à l'époque, il y avait juste un couvent de Capucins ici, et Gralin va donc faire une sorte de... C'est une politique d'urbanisme qui est quand même exceptionnelle, je dois dire, hein, au XVIIIe siècle. C'est-à-dire c'est un homme qui va entièrement planifier un quartier qui n'existe pas autour d'une place, avec des rues bien dessinées, comme vous voyez là. Hein. On voit bien que d'ailleurs, c'est la perfection. Hein, on a vraiment pris un papier et un crayon et on a dessiné un quartier à partir du moment où il n'y a rien. On va juste évidemment proposer au père Capucin de partir, ce qui va pas être simple parce qu'ils vont bien négocier leur départ, je peux vous dire, mais il n'empêche que c'était quand même tout à fait visionnaire. Ce quartier nantais si connu du Théâtre Gralin, qui pour nous est une évidence, qui reste un quartier évidemment très beau et assez chic, on n'imagine pas qu'il est sorti de l'imagination de cet homme qui va donc entièrement construire tous les immeubles qui sont là, et notamment dans ces rues Jean-Jacques Rousseau et Crébillon actuels, qui évidemment sont des immeubles de rapport. Bien entendu, ce n'est pas qu'un philanthrope, hein, c'est un homme qui va faire une opération immobilière, on est bien d'accord. Mais quand même, c'est quand même pas donné à tout le monde, c'est-à-dire qu'il va proposer, dans cet immense quartier dans lequel il avait proposé de mettre la bourse, mais la bourse ne sera pas hein, à cet endroit-là, mais c'était le projet initial, il va proposer que si la ville donne un terrain, lui donne le terrain, il va construire à ses frais une salle de spectacle. c'est-à-dire ce magnifique théâtre. Et il le construit en effet à ses frais. Et on comprend très vite qu'avant même la fin des travaux, le théâtre porte déjà le nom de Théâtre Gralin. Alors qu'il n'est pas encore inauguré, on parle déjà de Théâtre Gralin. À certains moments, on dira aussi le Grand Théâtre. Voilà. Donc, vous voyez maintenant un peu l'idée du plan. Et voilà ce que vient de vous montrer. La place, les rues adjacentes, des immeubles qui, évidemment, sont d'une très grande beauté, puisque tout a été conçu en même temps. Vous comprenez, c'est un projet d'urbanisme. Toutes les façades sont à l'identique. Évidemment, Gralin s'est réservé cet hôtel particulier pour lui. Évidemment, on ne sera pas trop étonné, qui est aujourd'hui l'Hôtel de France. Et Gralin, évidemment, s'installe là, mais bien entendu, construit tout le quartier. Et il vend morceau par morceau, immeuble par immeuble, tout en faisant construire son théâtre. Donc ce sont des travaux qui, pour le théâtre, nous mènent de 1780 à 88. Nous sommes donc dans les dernières années du règne de Louis XVI. Et on inaugure le jour de Pâques 1788. Et à mon grand drame, j'ai eu beau chercher, on n'a absolument aucune idée du programme de l'ouverture du théâtre ce jour de Pâques. Probablement, j'oserais dire, un opéra de Gluck, parce qu'il n'y a rien qui soit plus à la mode que Gluck à l'époque, et que tout seigneur, tout honneur, c'est bien possible qu'on ait entamé avec Gluck. Mais encore une fois, ça reste une supposition. Donc cette façade très élégante, très néoclassique, hein, nous sommes fin 18e, c'est le néoclassicisme dans toute sa splendeur. Vous voyez ici avec ses colonnes, cette allure un peu de temple à l'antique, vous voyez. Vous allez en voir différents aspects. Vous voyez ici autant de diligence, en sachant qu'aujourd'hui vous vous mettez à cet endroit avec votre appareil photo et vous voyez exactement ça, c'est-à-dire rien n'a changé. La rue Molière, la rue Corneille, la rue Racine, tout ça est absolument tel quel. Nous n'avons absolument aucun bouleversement à part la décoration de la place depuis ce temps-là. Donc autant de diligence, en gros nous sommes sous Louis-Philippe, ici vous voyez une photographie de la belle époque, même chose, et puis vous voyez évidemment des projections plus modernes, évidemment, du théâtre, la nouvelle installation de la place depuis quelques mois seulement, avec fontaines et périmètres piétons, tout ça est tout à fait nouveau pour nous, et enfin des jeux de lumière un peu intéressants faits à certains pour certains événements, mais qui donnent une certaine beauté, je dois dire, à ce théâtre néoclassique. Voilà, pour ce qui en est de l'architecture. Je voudrais insister peut-être sur l'idée de Gralin et de Crucy. Crucy, c'est l'architecte de la ville de Nantes, qui a eu cette très belle idée de ne pas faire comme tous les autres théâtres d'Europe. Et c'est peut-être ça qui est même de France, parce que dans la plupart des théâtres, vous le savez bien, et il suffit d'aller dans n'importe quelle autre ville, le hall est plutôt fracturé, coupé en deux ici, de manière à ce que dans la partie supérieure, on ait un grand foyer qui donne sur la place. Hein, et pratiquement tous les théâtres, et puis les théâtres italiens aussi, ont ce grand foyer qui donne sur la place. Alors peut-être c'est ce qui nous manque, hein, nous n'avons pas de grand foyer, mais en revanche, il y a eu cette idée très 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 intéressante d'un immense hall qui soit un peu à la manière d'un forum à l'antique, c'est-à-dire que ce hall était censé être totalement ouvert sur la ville. Il n'y avait aucune vitre, aucune porte vitrée, enfin tout ça sont des vitres aujourd'hui, mais là il n'y avait rien. Donc c'était ouvert sur la place, on pouvait entrer et sortir à la manière de ces agora, de ces forums, de l'Antiquité. On voulait parler avec des gens, on entrait, on se mettait à l'abri, on se protégeait du soleil en été, on se protégeait de la pluie en hiver, on entrait, on sortait, évidemment il faisait à l'intérieur du hall le même froid qu'à l'extérieur, ou la même chaleur, puisque rien n'était fermé. Mais c'était une assez belle conception, si vous voulez, d'un lieu, vous voyez, public, ouvert vers l'extérieur, et qui donc permet en plus de profiter très bien de la place. Donc on a, je reviens sur cette image, ces très très beaux culs de four qui sont vraiment d'une très grande élégance avec voilà, cette voûte en caisson, voilà, ces statues de Molière et Corneille qui donnent évidemment leur nom aux deux rues adjacentes, et surtout cette idée d'ouverture vers une place qui elle-même est circulaire, demi-semi-circulaire, la place étant le miroir de la salle à l'intérieur, hein, le demi-cercle de la salle est renvoyé à l'extérieur par un demi-cercle de la place. Donc une très très belle idée de correspondance entre l'intérieur et l'extérieur avec cette idée d'ouverture et de forum. Bon voilà, c'est une originalité de ce théâtre. J'aime aussi cette image, regardez cette image et regardez celle-ci. C'est intéressant parce que vraiment on peut dire que rien n'a changé, ou presque rien. Ici vous voyez le théâtre Gralin sous Louis-Philippe, vous voyez ici une image actuelle. Bien entendu, vous êtes bien d'accord que toute gravure ou tout dessin déforme les proportions. Il ne faut jamais se fier à ce que nous montre une gravure ou un dessin. C'est très difficile par rapport à une photographie. On peut avoir une idée que c'est plus grand ou plus petit. Bon, voilà. Alors, ce qui a changé, c'est que ces colonnes qui sont là ont été totalement emmurées. Hein. Elles sont toujours derrière, m'a-t-on dit. Il suffirait d'ouvrir ces grands coffrages pour retrouver les colonnes d'origine. Hein. Mais sinon, on peut dire que voilà, rien n'y est. Alors, l'idée, c'est un théâtre qui est mis à l'italienne, mis à la française. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien sûr, a priori, quand on voit une salle en fer à cheval, on pense à un théâtre à l'italienne, ce qui en fait est le modèle, je suis tout à fait d'accord. Ce qui l'est un peu moins, c'est que le vrai théâtre à l'italienne, comme le San Carlo de Naples, ou la Scala de Milan, ou la Fenice de Venise, c'est que tous les étages sont à l'aplomb les uns des autres, ne font qu'une seule ligne droite à la verticale, et ça c'est le vrai théâtre à l'italienne. Alors que les Français vont au 18e commencer à faire une sorte de dénivelé, ou tout au moins des étages qui sont de plus en plus en retrait les uns par rapport aux autres, ce qui n'est absolument pas dans la tradition italienne. La grande chance que nous avons, c'est que nous avons conservé ces couleurs bleu et or, qui sont les couleurs de l'Ancien Régime dans les théâtres, et il n'y a que 4 théâtres en France qui ont du bleu et de l'or. C'est extrêmement rare, puisque vous savez que toute l'Europe va passer au rouge et or au 19e siècle. Donc c'est vrai que c'est tout à fait étonnant qu'on puisse sauvegarder ces couleurs. Et quand on a eu la restauration du théâtre récemment, on est nombreux à Nantes à s'être tout de suite enquis de savoir si on allait bien maintenir le bleu et or, que la fantaisie d'un architecte ne nous fasse pas passer à je ne sais quel vert pomme ou autre, parce que ce serait terrible, vous comprenez, ce serait terrible. On laissera le vert Granny Smith pour la reine d'Angleterre, mais on va plutôt nous garder le bleu et or si c'est possible. Donc on était tous là très vigilants, et Dieu merci c'est resté. Ce serait très dommage, parce qu'il y a très peu de théâtre, je vous le disais, qui ait gardé cette couleur Ancien Régime, et c'est bien, nous sommes en 1788 à l'origine. Bien sûr, il y a eu différentes modifications, mais voilà. Alors c'est un théâtre évidemment qui n'a pas cessé de diminuer en place, puisque en 1788 on met 1200 personnes et qu'aujourd'hui on en met péniblement 700, hein, 700 et quelques. Pourquoi? Parce qu'à chaque restauration, vous savez bien qu'on donne plus de place aux gens, les gens grandissent, sont des grandes jambes, et ils ne veulent plus être étriqués comme ça, comme on l'était avant. On en plaçait les gens au 18e, 1200 personnes, 750, vous voyez que évidemment on a donné de la place au public. Mais on garde ce très bel ensemble, voilà, bleu et or, et cette classe aussi, comme je vous le disais. Donc c'est un lieu qui va avoir énormément de, comment dirais-je, qui va avoir une vie très très riche. Le théâtre va brûler en 1796, va être reconstruit à l'identique. L'architecte est le même, il n'a pas changé, c'est toujours Crucy, il est toujours là. Donc il a fait la première version, il va faire la deuxième version du théâtre, et il va le reconstruire à l'identique. Et puis au 19e siècle, dans les années 1880, on va installer ce très beau plafond peint par Berthaud, qui est un élève de Flandrin, qui est lui-même un élève de Ingres, et on va avoir cette allégorie des arts, cette allégorie de la musique, du théâtre, de la tragédie, avec des couleurs très belles, que l'on voit beaucoup mieux aujourd'hui depuis le nouvel éclairage. J'ai pas le temps de le détailler, mais c'est pour vous le montrer. Et puis dans le tout petit foyer du premier, parce qu'il n'y a pas de grand foyer, je vous ai expliqué pourquoi, il y a un petit foyer latéral. On va aussi au 19e siècle montrer ce lien qui est très très nantais comme idée, je pense qu'on ferait la même chose à Bordeaux, ce lien entre les arts et le commerce. Ça c'est aussi vraiment typique de villes marchandes, portuaires, avec un très gros négoce. Et donc c'est amusant de voir comment ces allégories de l'art, évidemment, et on voit la lyre ici qui est là pour le rappeler, est associée à une vue du port de Nantes avec les bateaux et l'église Saint-Louis, Notre-Dame de Bonport, qui est sur le port de Nantes, que tout le monde peut reconnaître si on connaît un petit peu Nantes. C'est vraiment associer ce monde de l'art avec le monde des bateaux, du commerce, du négoce, avec une vue du port qui est le propre même de l'économie nantaise. Ça, c'est très 19e, hein, d'avoir comme ça associé art et négoce, c'est une assez belle idée. C'est un théâtre qui devient immensément populaire. Dans mon livre, j'ai vraiment retrouvé des tas d'objets absolument incroyables qui montrent le théâtre Grasselin, un petit arrosoir de poche en porcelaine, mais bien entendu des assiettes, des horloges, enfin tout ce que vous voulez, évoquant ce théâtre comme vraiment le lieu phare de toute vie musicale. Alors, voilà les plus anciennes affiches, hein, 1836, je n'ai pas réussi à trouver d'affiches plus anciennes que ça, mais c'est quand même intéressant de voir évidemment ces spectacles qu'on donnait à l'époque qui étaient énormes, puisqu'on avait toujours un opéra plus un ballet ou une pièce de théâtre. On était toujours pour 5 heures au théâtre le soir, hein, 5 heures d'affilée entre l'opéra et la pièce, comédie ou ballet. C'était ça, on y passait énormément de temps au théâtre, hein, mais ça c'était comme ça à Paris, c'était comme ça dans beaucoup de villes d'Europe, il n'y avait pas d'autres formes de divertissement. Donc on n'avait que ces soirées au théâtre pour se divertir. Et voilà pourquoi on disait à l'époque qu'on y passait le quart de sa vie, parce que si vous passez 6 heures par jour au théâtre, c'est le quart de votre vie. Et donc, évidemment, c'est bon, pour s'amuser, mais n'oubliez pas aussi que c'est un lieu où, quand on n'est pas toujours très bien chauffé chez soi à l'époque, on a chaud au théâtre, on y est bien. Vous savez que c'est une considération très importante qui revient dans tous les commentaires de l'époque au théâtre, il fait bon, et bien c'est toujours ça de gagner, et quand on rentre, on se met sous la couette, mais voilà. Et puis beaucoup d'arrivées, alors nous avons eu beaucoup de visiteurs illustres, la duchesse d'Angoulême, vous savez, la fille de Marie-Antoinette est venue, la duchesse de Berry, extrêmement célèbre, est venue à Nantes du temps de sa gloire, avant qu'elle ne soit arrêtée sous Louis-Philippe à Nantes, mais aussi beaucoup de compositeurs, et j'ai mis ici un exemple de Boieldieu, parce que Boieldieu a été vraiment parmi ces stars. Vous savez que Boieldieu, dans les années 1820, c'est un monstre sacré. Vous le trouvez sur les façades de tous les théâtres de France, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent Boieldieu, mais ça me dit clairement quelque chose. On ne peut pas dire que ça vraiment frappe les gens. Boieldieu vient à Nantes, il est absolument reçu comme un roi, et quelques temps plus tard, il va produire sa fameuse Dame Blanche, qui est évidemment un record absolu de popularité dans la France de l'époque. Voilà. Et je vous propose d'écouter ce petit extrait de La Dame Blanche, simplement parce que c'est l'exemple même de l'opéra qui a été le plus vite, qui est passé le plus vite de Paris à Nantes, c'est-à-dire en un mois. C'est extrêmement rare à l'époque, nous sommes en 1825, En général, les opéras sont faits à Paris, hein, ça il faut bien le dire, au 18e, au 19e, c'est Paris qui crée tout ça. Mais en général, il se passe plusieurs mois, un an, deux ans, trois ans avant qu'un opéra parisien arrive en province. Là, un mois, c'est extrêmement court, c'est du jamais vu, ça montre évidemment la très grande popularité de cette œuvre et pour qu'elle soit si rapidement chez nous. On va écouter les célèbres couplets de La Dame Blanche. Thank you. on ne va pas pouvoir tout écouter, bien entendu. Alors, si je vous fais entendre ça, c'est pas seulement par la rapidité, mais aussi par le fait que cette dame blanche va tomber exactement au moment où un Nantais, qui s'appelle Stanislas Baudry, va avoir cette idée tout à fait moderne, et je dois dire la pionnière, première en France, de créer des omnibus. Des omnibus qui pourront transporter les gens, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une calèche à cheval réservée à certains, évidemment, et les autres, ils vont à pied, eh bien, on invente donc un système de transport public. C'est une toute première en France. Hein. C'est comme ça que le mot omnibus va naître, parce qu'on cherche comment est-ce qu'on pourrait dire. Ben voilà, le terme est trouvé. Et ce qui est amusant, donc pour la première fois, il n'y a qu'une seule ligne à Nantes, qui va de la place du commerce, en gros, jusqu'au bain. Il y avait des bains qui se trouvaient donc à côté de notre jardin des plantes actuellement, là où il y a une rue Stanislas Baudry, et on va donc avoir une seule ligne. C'est déjà beaucoup. On paye donc un billet, on peut monter, et on n'est pas obligé de tout faire à pied. Et évidemment, Stanislas Baudry se dit, comment je vais appeler mes omnibus? Et il les appelle les omnibus de la Dame Blanche. Et voilà. Et donc, pendant des décennies, on va parler au 19e siècle à Nantes des Dames Blanches, qui sont ces voitures à cheval publiques, où on paye un billet pour monter et se transporter. Il y avait deux ou trois arrêts en cours de route, c'est donc bien le système du bus ou du tram actuel, vous montez en cours de route, vous descendez où vous voulez, et voilà comment on prenait une dame blanche du nom de l'opéra, si en vogue à l'époque. Et puis évidemment, Stanislas Baudry va reproduire son modèle dans d'autres villes de France, et ensuite vont naître tous ces services de bus et de tram que vous connaissez bien par la suite. Mais là, on peut dire que Nantes était vraiment précurseur. Maintenant, dans les invités de marque, je voudrais montrer aussi l'importance du concert dans un lieu comme celui-là et l'importance de personnalités exceptionnelles. Franz Liszt arrive à Nantes en 1845. Nous sommes en décembre 1845. L'arrivée de Franz Liszt est un événement que vous n'imaginez pas. Franz Liszt, donc, à cette époque-là, à une trentaine d'années, il est beau comme un dieu. Quand il entre sur scène, vous avez dit « demoiselle qui tombe dans les pommes » en le voyant. Il était extrêmement fier de sa... Alors, il était très conscient qu'il avait du succès, il était très fier de son profil, et c'est Franz Liszt, vous savez, qui va orienter le piano de profil. Car jusqu'à Franz Liszt, un pianiste jouait de dos au public. Hein. On avait le public dans le dos, et le public voyait les mains comme ça, à droite et à gauche. Franz Liszt, tellement fier de son profil, va orienter le piano. Comme vous le savez aujourd'hui, vous avez tous vu des récitals de piano. Le piano se trouve toujours comme ça de profil. Vous voyez donc toujours le profil droit du pianiste. Et ce qui permet aussi d'ouvrir le piano face au public, le piano à queue. Voilà. Franz Liszt, vous n'imaginez pas son arrivée en 45. D'abord, ça fait plusieurs semaines qu'on ne parle que de ça. Toute vie politique, on n'en parle plus. On ne parle plus que de l'arrivée de Franz Liszt. Et le jour où il va donner son premier concert, eh bien, on va avoir un service d'ordre absolument fou sur la place Gralin pour empêcher qu'il soit massacré par le fan club. Vous voyez, hier soir, il y avait la fan zone ici, et là, il y avait le fan club, c'est-à-dire, en fait, toute cette jeunesse et toute cette noblesse nantaise et aussi toute cette population qui aurait fait n'importe quoi pour toucher un petit bout de son vêtement, parce que c'était vraiment, quand on parle aujourd'hui de starisation, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment des dieux de la scène. Et puis, c'était une bête de scène, Franz Liszt. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était tout à fait exceptionnel par son jeu, mais aussi par sa générosité. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, il a donné trois concerts au Théâtre Gralin, dont on a les programmes. J'ai eu l'occasion d'écrire un article là-dessus. C'est des programmes qui étaient très typiques de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, on n'a absolument pas l'idée d'un récital comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, ça ne vous aide pas du tout d'aller écouter un pianiste pendant tout un concert qui va vous jouer des études de Chopin ou des sonates de Ravel. Ça occupera parfaitement votre soirée. À cette époque-là, dans ce milieu 19e, ça paraît invraisemblable. On pense qu'on va mourir d'ennui si on a juste un piano sur scène pendant une heure et demie. Donc, ce sont toujours des concerts pot pourris dans lesquels on va avoir une pièce d'orchestre, un air d'opéra par une chanteuse, une pièce de Franz Liszt, puis un morceau de musique de chambre, puis de nouveau une pièce d'orchestre. Voilà, c'est une espèce de cocktail, un pot pourri, comme on aime beaucoup à l'époque. Franz Liszt, évidemment, joue des réminiscences d'opéra qu'il a composées, car il compose sur des thèmes de Norma ou sur des thèmes de Schubert, comme Le Roi des Aunes. Puis il écrit aussi des pièces sur lui-même, il est compositeur. Voilà, et donc il écrit notamment ce grand galop chromatique, c'est ça que je voudrais vous faire entendre, parce que ça a été vraiment, on pourrait dire, l'œuvre phare de aujourd'hui, là, interprétée par une pianiste russe. Par Zifra, excusez-moi, oui, merci, il y en a qui connaissent mieux mon PowerPoint que moi. Voilà, et je vous le fais entendre, ce grand galop chromatique, parce que c'est tout à fait caractéristique. Ben, on ne va pas tout écouter, mais vous avez tout à fait le droit de dire, mais bon, ça n'est que de la virtuosité. N'oubliez pas que la virtuosité, à l'époque, compte énormément à l'opéra comme au piano. On vient pour ça, et on sait que Franz Liszt est un tel virtuose qu'on en demande et on en redemande. Et bien entendu, c'est le type de pièce qu'il place dans un concert à Gralin, parce qu'il sait qu'évidemment, il aura toute la scène debout après. On est dans cette grande virtuosité. Je crois que c'était assez important de voir aussi Zifra, qui était un grand, grand spécialiste, évidemment, de Franz Liszt, dans ce document d'archives, évidemment. Voilà typiquement ce que juste joue Franz Liszt. Mais je vous le disais, c'est un homme très généreux. Je voudrais insister là-dessus, parce que Franz Liszt, d'abord la générosité, vous voyez bien, quand vous êtes un monstre sacré comme lui, hein, évidemment, qui a l'Europe à ses pieds, c'est déjà extraordinairement généreux de faire une tournée à Angers, Nantes et Rennes. qu'est-ce que c'est qu'Angers, Nanterre, Rennes? Non, mais honnêtement, remettez les choses dans le contexte de 1849. Qu'est-ce que c'est qu'Angers, Nanterre, Rennes par rapport à Vienne, Budapest, Berlin, Paris ou Londres? Où il va aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est sa générosité. C'est qu'il dit, il n'y a pas de raison que les petites villes de province ne profitent pas aussi des grands artistes. Ça, c'est une chose, je peux vous dire, extrêmement rare à l'époque. Et donc, voilà. Alors, évidemment, il voyage dans des conditions idéales. Il fait transporter son propre piano Erard parce qu'il ne joue que sur son piano. Donc, on transporte le piano Erard de Paris à Orléans. Puis, il fait toute la Loire en bateau pour arriver jusqu'à Nantes, pour avoir son piano qui précède de quelques jours son arrivée. Mais c'est déjà très généreux. Et puis d'autre part, vous savez, Francis, c'est celui qui a vraiment, je ne dirais pas inventé, mais qui a vraiment mis à l'honneur totalement ce qu'on appellerait aujourd'hui le concert caritatif. Ça nous est courant aujourd'hui qu'un artiste, et d'ailleurs dans les variétés c'est la même chose, donne leur spectacle au profit d'une cause. Francis a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire qu'on ne compte plus le nombre de concerts qu'il a donné pour les indigents, pour les inondés du Danube, pour les malheureux de ceci, etc., pour sauver des gens. Il l'a fait en permanence. Le problème, c'est qu'évidemment, tout le monde le sait, et partout où il arrive, évidemment, on l'attend au tournant. Pauvre Francis, évidemment, ça n'a pas manqué à Nantes. Il a 3 concerts prévus au Théâtre Gralin, et évidemment, les Nantais viennent lui dire, écoutez, voilà, est-ce que vous accepteriez de donner un 4e concert? Parce qu'on voudrait créer à Nantes la première crèche pour aider les mères laborieuses. Alors évidemment, Francis dit oui, parce qu'il dit toujours oui, et donc il va donc donner un 4e concert dans ce qui est à cette époque-là, en 45, la première petite école de musique qui en 1846 va devenir le Conservatoire de Nantes, toujours bien actif aujourd'hui évidemment. Et c'est dans cet embryon de conservatoire qu'il va donner un concert, donc, pour créer cette fameuse crèche. Alors, imaginez cette soirée sur invitation, évidemment sur invitation, parce qu'on a invité tous les gens qui vont donner beaucoup. Hein. Et donc, voilà. Et donc, il va, ce qui est aussi une autre preuve de sa modestie, parce que, je vous l'ai dit, c'est une bête de scène, il a un succès faramineux quand il entre sur scène, et là, pourtant, il va choisir de jouer à égalité avec 6 autres musiciens du conservatoire, ce qu'on appelle un septuor, le septuor de Hummel, qu'il va jouer. Donc il est au même plan que le violoniste, l'altiste, qui sont eux des professeurs nantais, et il va jouer ce septuor de Hummel, donc au conservatoire. Et là, évidemment, encore ça c'est du typique Liszt, quand le concert se termine, eh bien il décide de prendre lui-même la corbeille pour aller quêter. Et alors là, vous imaginez le résultat, on nous raconte que toutes ces dames de la bonne société nantaise, elles étaient tellement fascinées qu'elles donnaient leurs bijoux, leurs colliers, leurs bagues, tout partait dans la corbeille, parce que tout le monde défaillait en le voyant, et donc évidemment, ça a très très bien marché, de sorte qu'à la fin du compte, on a pu créer non pas une crèche, mais 2 crèches, grâce au produit de cette soirée. Et voilà comment les 2 premières crèches nantaises sont nées en 1846, l'année suivante, grâce à ce fameux concert de Liszt qui est tout à fait emblématique de cette générosité lissienne. Peut-être parmi les dernières choses que je voulais dire sur le théâtre, c'est un nom qui ne va dire rien à pas grand monde en tout cas, sauf à quelques Nantais qui connaissent cette plaque dans le théâtre Gralin. C'est cet homme qui s'appelle Étienne d'Étrange, un homme tout à fait étonnant, qui n'a pas une vie très longue comme vous voyez, mais qui a été vraiment ce genre de mélomane mécène, comme il y en a une fois de temps en temps dans certaines villes. C'est-à-dire un homme, d'abord un érudit de la musique, journaliste musical, qui a une fortune personnelle et qui va vraiment mettre toute son énergie au service de ce théâtre Gralin. C'est-à-dire qu'il va prendre des contacts par son métier, son entre-gens, il prend des contacts avec tout ce que l'Europe comporte de grands musiciens. Boito en Italie, Cosima Wagner, la femme ou veuve de Wagner, etc. Et on a toutes ces correspondances avec tous ces grands compositeurs, de sorte qu'il va réussir à donner un nouveau souffle au théâtre Gralin par des créations tout à fait étonnantes. C'est comme ça que Nantes a vu naître pour la première fois l'opéra de Massenet Hérodiade, créé en première nationale à Nantes. que le Mésophélès de Boïto a été créé en première nationale à Nantes, que Lohengrin n'a pas été créé en première à Nantes, évidemment, mais c'était quand même un combat. C'était la première fois que, comment dirais-je, c'était la première fois qu'on allait donner un opéra de Wagner. Et là, vous voyez une lettre, regardez en haut, excusez-moi, vous voyez ici la signature, hein, Cosima Wagner. Monsieur, je suis bien au regret. Alors, comme on n'a jamais donné de Wagner à Nantes, évidemment, l'étrange craint un peu ça, et il envisage peut-être de ne donner qu'un acte seulement. Elle répond, je suis bien au regret de devoir vous dire qu'il m'est impossible de satisfaire à votre demande. J'ai refusé à toutes les villes d'Allemagne l'autorisation d'exécuter un acte isolé. Mais pourquoi ne voudriez pas donner un opéra en entier, Lohengrin par exemple? Et voilà comment va naître, donc, en 1891, cette première nantaise d'un opéra de Wagner. C'était assez révolutionnaire à Nantes. Vous savez qu'il y avait les anti-wagnériens et les pro-wagnériens. C'était un pari audacieux, ce sera un succès considérable, et Nantes va donner ensuite plusieurs opéras de Wagner, et va être parmi les villes de province, celle qui va faire la plus grande place à Wagner. Alors ce n'était pas du tout, ne croyez pas que c'était évident à l'époque, c'était même extrêmement difficile de monter ce genre de spectacle. On voit ici Étienne Destrange, là à droite, avec Alfred Bruno, compositeur aussi célèbre à son époque. Et je vous le disais, donc, Destrange va réussir à se mettre en lien avec Boïto. Boïto, c'est le librettiste de Verdi, mais c'est aussi un très très grand compositeur. Et il va négocier avec Boïto la possibilité de monter son opéra Méphistophélès, qui est à l'époque un opéra tout à fait ambitieux. C'est un opéra, je dirais, un petit peu inspiré, enfin, tout au moins un peu imprégné de Wagner tout de même. C'est un opéra, je me demande comment ça a été possible de donner cet opéra sur la scène nantaise, qui n'est pas immense tout de même. C'est un opéra avec des moyens colossaux, une orchestration colossale, avec 7 fanfares qui rappellent l'Apocalypse, avec vraiment quelque chose de absolument étonnant, mais qui raconte l'histoire de Faust et Méphisto que vous connaissez tous. Et c'est donc en 1889 que cet opéra, et Boïto est saisi, parce que Boïto, qui évidemment est connu en Italie, ne l'est pas tellement à l'étranger, et qu'un Nantais demande qu'on joue pour la première fois son opéra en France, évidemment, il est fou de joie, et évidemment, il accepte, il aurait eu tort de ne pas accepter. Et voilà comment la première s'est faite à Nantes, dans cet opéra absolument prodigieux. Je vais vous montrer quand même la scène finale. Alors, avant, je ne vous montre pas une production nantaise, je n'ai pas souvenir qu'on l'ait redonné à Nantes au XXe siècle. Je risque donc pas de vous montrer les images. Je vous montre une autre production, mais ça va vous montrer le style extraordinaire de Boïto. Faust va mourir, mais il est sauvé et il monte au ciel. Méphisto, lui, a perdu son combat. Il est repoussé vers l'enfer et le cœur des anges accueille Faust vers le ciel. Bon, et voilà cette scène finale. J'imagine l'effet que ça a pu produire à Nantes en 1889.
Thank you.
Le Méphistophélès de Boïto est un des opéras les plus époustouflants de l'histoire du répertoire, très difficile à monter, colossal, et donc pour cette raison aussi, on ne le voit pas souvent, mais en tout cas, il est certain que c'est vraiment quelque chose, et j'aurais voulu imaginer comment ça pouvait être, évidemment, en 1889 à Nantes, avec des moyens évidemment infiniment plus limités que ce qu'on a pu voir là. À la même époque, donc, je vais dire deux mots de l'orgue et du double orgue de la cathédrale et de la maîtrise, et je conclue avec les festivals actuels. Car c'est quand même important de se dire qu'au 19e, bien entendu, la maîtrise a repris vraiment du... Vous savez que la première moitié du 19e est une période extrêmement difficile sur le plan de la foi. Les essais de la Révolution se prolongent et c'est très difficile de faire partir une hérésie religieuse. Et on a des œuvres tout à fait étonnantes qui sont créées dans la première moitié du 19e siècle, des cantates qu'on chante à l'évêque pour son anniversaire. Je résiste pas au plaisir de vous lire le texte de ce qu'on chante à la cathédrale en 1823 à l'évêque. Comme le cerf dans la chaleur désire une onde jaillissante, nos voeux appelaient, Monseigneur, votre présence bienfaisante. Vous parûtes, à votre aspect le ciel se montra sans nuages. Nous vous parlâmes de respect, nos cœurs en devinrent le gage. Voilà le répertoire de la cathédrale. Hein. Je sais que ce n'est pas de moi. Et puis... Ou bien encore, belle chose pour l'anniversaire de l'évêque, bon pasteur, quand la providence sur ses bords conduisit vos pas, vous nous remplîtes d'espérance et nos cœurs ne se trompaient pas. Dans tous vos traits, la bonté peinte déjà faisait naître l'amour, et l'amour qui parle sans feinte déjà célébrait ce beau jour. Voilà. Alors, vous voyez qu'on ne va pas très loin sur le plan musical avec tout ça, mais évidemment, les choses prennent évidemment une autre tournure dans la seconde moitié du 19e qui devient vraiment maintenant l'époque de la relance considérable de la maîtrise à partir donc des années 1848 déjà. Et là, et la troisième salette dont je vous ai montré le bâtiment tout à l'heure, et on commence à avoir cette rénovation du grand orgue. L'orgue Clicquot va être amplifié par Merclin car on n'a pas les moyens à Nantes de faire venir Cavaillé-Coll, le monstre sacré de l'orgue de Notre-Dame, etc. C'est trop cher. Mais on va développer cet orgue et en faire cet orgue absolument gigantesque, amplifié, qui aujourd'hui a 74 jeux sur 4 claviers de 61 notes chacun. C'est vrai que c'est un quelque chose de fabuleux. Et on va aussi se doter de ce qui est aujourd'hui le plus grand orgue de chœur de France, l'orgue Louis de Bière de 1896, qui est dans le chœur, comme son nom l'indique, un peu endommagé pendant la guerre, mais évidemment très très bien restauré. Et c'est ce qui permet évidemment d'avoir aujourd'hui le grand orgue de la cathédrale. Et donc, avec cet orgue de chœur, encore une fois, cet orgue de chœur, avec ses 31 jeux sur 3 claviers, c'est, je répète, le plus grand orgue de chœur de France. Et c'est ce qui nous permet à Nantes d'avoir ces concerts pour deux orgues qui sont absolument fabuleux. Ça permet de jouer tout le répertoire choral à deux orgues, mais aussi, évidemment, des créations pour deux orgues. Donc, Félix Moreau, tous les Nantais le connaissent, titulaire pendant des décennies de l'orgue de la cathédrale et grand compositeur lui-même, a évidemment beaucoup profité de ce double outil parce que c'est une chance absolument incroyable. Et je voudrais qu'on écoute ici, avant de passer à la folle journée, je voudrais qu'on écoute ici Innal, très contemporaine évidemment, hein, tout le monde ne va pas forcément aimer, mais qui montre très bien, donc c'est une disciple de l'abbé Félix Moreau, Marie-Thérèse Jehan, qui joue. Vous allez voir l'abbé Félix Moreau derrière elle, qui observe, c'est le compositeur, hein, et vous allez entendre des réponses avec l'orgue de chœur que vous ne voyez pas, mais que vous entendez très bien, et on voit ce qu'on arrive à obtenir de tout à fait étonnant dans ces effets de...
Thank you.
côté. Mais évidemment, on pourra vraiment chanter dans des grandes messes chorales de Vidor ou de Vierge à deux orgues. C'est absolument fabuleux, évidemment, le résultat. Alors, cette maîtrise avec le chanoine Courtonne, puis avec Monseigneur Beignet, va vraiment prendre de l'ampleur et dans le milieu du XXe siècle, va devenir vraiment une des maîtrises les plus célèbres de France. Et on va retrouver avec Monseigneur Beignet, que beaucoup d'entre vous ont connu probablement, qui avait lui-même rédigé ces fameux, manuels des paroisses, qui étaient en deux formats, ce qui fait que ça faisait le grand Beignet et le petit Beignet. Oui, on disait comme ça à l'époque. Vous trouverez ça, page 22 du grand Beignet, ou du petit Beignet. Bon, voilà. C'est tout à fait, c'est important de signaler quand même que Monseigneur Beignet, un peu à la manière d'Étienne d'Étrange à l'opéra fin 19e, va correspondre lui aussi avec tous les compositeurs, avec tous les organismes de son temps. C'est vrai que le travail qu'il fait est absolument étonnant. Et puis surtout, on est reparti là vraiment sur, à partir des années 30, sur une véritable éducation musicale à l'ancienne, avec des écoles de Nantes, Saint-Pierre et autres, où les enfants ont 7h30 de musique par semaine, et donc sont formés évidemment de manière vraiment très solide sur le plan vocal et sur le plan musical. Donc ici, ce sont des images évidemment des années 40, 50. Vous voyez très bien l'orgue de chœur ici dont je vous parlais, et le grand orgue ici, et la fameuse maîtrise avec évidemment les chanteurs adultes et avec les enfants. Avec évidemment ce problème que vous connaissez bien, c'est que évidemment on va voir, plus on avance vers les années 60, plus on va avoir une décrue des candidats, de moins en moins d'enfants. On est à 54 enfants en 31, on en a plus de 36 en 66, et c'est vrai que c'est un véritable problème. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur les documents de Mgr Beignet, et on voit cette préoccupation évidemment très grande de savoir comment on va s'en sortir, puisque plus on avance dans les années 60, moins il y a de candidats pour venir chanter. Et là, il se pose une sorte de dilemme qui est évidemment, qu'on connaît bien, c'est que Mgr Beignet est extrêmement réticent à faire entrer des femmes dans la maîtrise de la cathédrale. Et donc, d'abord, il commence à tolérer, à la fin des années 60, des petites filles pour venir avec les petits garçons dans le chœur, mais évidemment des enfants. Et ça, il l'accepte assez bien. Mais ce qui est amusant, c'est de voir tous les... Alors d'abord, ses raisonnements, c'est que c'est la faute de la télévision et de la voiture le dimanche, qu'il n'y a plus d'enfants qui veulent chanter parce que tout le monde part en week-end et on regarde assez bon. Ça, c'était ses arguments. Et puis surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il dit, mais bon, quand on lui dit, mais il faut faire entrer des femmes, on s'en sortira pas. Il dit, mais non, vous verrez, ça ne marchera pas, ça ne les intéressera pas. Et donc, jusqu'en 1972, il y a évidemment, Mgr Beignet ici, jusqu'en 1972, il n'y a que des hommes, évidemment, et des petits garçons. Et la révolution se passe en 1973, et Mgr Beignet pense qu'il n'y aura aucune femme candidate, et il y en a 35, évidemment, qui sont candidates, et on a un pupitre de femmes très, 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 très bon et de grande qualité à partir de 1973. Évidemment, la maîtrise, elle devient mixte à ce moment-là, et on voit encore ici Mgr Beignet là à droite, et enfin, aujourd'hui, la maîtrise avec des enfants très, très solidement formés. Je vous ai dit, aujourd'hui, ils ont entre 5h et 6h30 de chant, de clavier et d'histoire de la musique par semaine. Ce sont des enfants de plusieurs écoles de Nantes, 30 à 40 chanteurs, garçons et filles, qui ont donc une sorte d'horaire aménagé, si vous voulez, pour faire de cette maîtrise une maîtrise de qualité, aujourd'hui dirigée par Étienne Serchaud, que vous voyez là et que beaucoup connaissent. Donc, le XXe siècle, à partir des années 60-70, c'est une explosion de beaucoup de niveaux. D'abord parce qu'à partir de 1971 est créé l'Orchestre des Pays de la Loire, OPPL d'abord, qui devient ONPL, Orchestre National des Pays de la Loire, à partir de 1996. Donc, depuis 1971, on a vraiment une grande structure orchestrale, vraiment digne d'une ville comme Nantes. Aujourd'hui, il fait partie des orchestres nationaux, avec Toulouse, Bourg-France, Lille, que vous connaissez bien, évidemment. Le théâtre Gralin, lui aussi, prend une nouvelle structure en 2002. Il devient Engénant Opéra. C'est une chose que je signale, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le coût de l'opéra est tel que le regroupement des villes devient nécessaire. Donc, Engénant, à partir de 2002, A-N-O, Engénant Opéra, qui maintenant est en pourparlers pour se transformer en Engénant Rennes Opéra. Et donc, on est en négociation pour associer les trois villes, le triangle des trois villes, et partager les mêmes spectacles, toujours pour limiter les coûts. Nous avons eu évidemment un très beau festival baroque qui a disparu aujourd'hui, le Printemps des Arts. Pendant de nombreuses années, nous avons aussi, bien sûr, ces rendez-vous de l'herbe pour le jazz, qui sont un moment vraiment important, puisqu'ils marient le jazz et la belle plaisance, la navigation sur l'herbe. Beaucoup de Nantais connaissent ça depuis 1986. Et enfin, donc, on a, comment dirais-je, à partir de 1995, et je vais terminer là-dessus, un phénomène relativement nouveau, en effet, et tellement nouveau, d'ailleurs, que... c'est ma... Oui, ah, si, tellement... Non, mais je croyais que ma clé USB avait un petit problème, mais bon... Et je termine par là, parce qu'en effet, vous faire la liste des festivals n'aurait aucun intérêt, toutes les villes en ont. Bon, voilà, je voudrais donc terminer sur ce qui est quand même une spécialité nantaise, et je sais que ce sera approfondi par René Martin lui-même. Donc René Martin, je connais depuis 40 ans, a eu cette belle idée en 95, donc là je vous mets l'affiche de la première folle journée, donc nous venons déjà de passer la 22e folle journée, et nous allons sur la 23e, hein. René Martin a cette idée, donc en entendant un chanteur d'une rock star dans un immense stade, il se dit, mais on doit pouvoir réunir autant de gens pour la musique classique. Si on s'y prend bien, ça doit être possible. Et c'est comme ça qu'il a l'idée d'investir, c'est aussi une demande de la ville, qui cherchait à doper sa cité des congrès à l'époque, qui n'était pas encore très bien parti. Et il fallait trouver un projet. Et René Martin va avoir cette idée donc d'un festival qui normalement au départ était sur 24 heures et qui va appeler la folle journée. La folle journée, je vous rappelle que c'est le sous-titre des noces de Figaro de Mozart. Hein. Les notes, c'est du Figaro ou la folle journée, le Beaumarchais, le mariage de Figaro ou la folle journée. Donc c'est le sous-titre de la pièce de Beaumarchais. Qu'il utilise, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on est sur 24 heures, aujourd'hui on est sur 5 jours, bien sûr, mais ça reste toujours la folle journée, comme marque déposée. Avec ce pied de nez que fait Mozart, c'est assez amusant, parce que ça montrait l'esprit. On veut sortir du cadre habituel du concert, on veut, certes, de la musique classique, c'est l'objectif, mais on va en sortir, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres choses, on va avoir des conférences, on va avoir des films, on va avoir tout type de musique, depuis la plus divertissante ou plus sérieuse. C'est un concept nouveau, vous voyez, c'était même écrit à l'époque, parce que ce concept nouveau, excusez-moi, ce concept nouveau passe par un lieu aussi exceptionnel. La Cité des Congrès, c'est un lieu qui non seulement possède cette grande halle dans laquelle on peut faire des concerts gratuits, mais aussi une douzaine de salles à l'acoustique exceptionnelle. Et c'est rare qu'un lieu présente une douzaine de salles à une acoustique parfaite. Donc, on va pouvoir en effet faire beaucoup de concerts en même temps, avec un concept simple. Vous ne quittez jamais le lieu, vous mettez votre vêtement au vestiaire le matin à 9h, vous le retrouvez à minuit, vous n'avez jamais eu besoin de sortir. C'est typiquement intéressant pour un festival d'hiver, puisque la folle journée est toujours fin janvier, début février, il fait froid, ou enfin pas très beau, et du coup, on n'a pas envie de mettre le nez dehors. Deuxièmement, les concerts sont courts, on est sur 45-50 minutes, ce qui fait que celui qui n'est pas férus de musique classique peut se dire, bon, 45 minutes, ça me convient bien, je vais en profiter, mais je ne suis pas devant une symphonie de Mahler qui dure 2 heures. Et donc, je peux en profiter, avec des prix, évidemment, vus à la baisse, de manière à pouvoir, justement, profiter de plusieurs concerts à la fois. Donc, on a vraiment, là, une idée nouvelle, originale, l'unité du lieu, le concert court, pas trop cher, encore une fois, avec votre possibilité de vous combiner un parcours de concerts. Les conférences, pendant très longtemps, étaient gratuites. On a eu aussi des films, il y a des concerts gratuits dans la Grande Halle. Donc vous pouvez, en somme, passer une demi-journée ou une journée dans ce lieu et profiter. Alors, de ce qui a d'abord été, vous voyez, des folles journées très centrées autour d'un compositeur ou autour d'une période. Je vous montre des exemples d'affiches. Hein. Là, on était totalement sur Bach. Là, on est totalement sur la musique russe. Là, on n'est que sur Haydn et Mozart. Là, on était sur l'école italienne, vraiment 17e, 18e. Là, on est sur les 4 compositeurs nés en même temps, puisqu'ils sont tous les 4 nés en 1809, 1811. C'est vraiment la génération 1810. Beethoven et ses amis, tout le monde a compris. Donc voilà ce qu'a été la folle journée pendant 20 ans. Hein. Et puis, au bout de 20... Pardon, excusez-moi. Oups. Voilà, au bout de 20 ans, donc, il a voulu changer de formule. Et il est passé à des folles journées beaucoup plus thématiques, parce qu'on ne peut pas reproduire indéfiniment les mêmes modèles, puis peut-être on aurait été un peu à court d'idées. Et donc, depuis 2 ans, ce sont des folles journées autour d'un thème. L'an dernier, c'était les passions du cœur et de l'âme. Et cette année qui vient de s'écouler, là, février dernier, c'était sur la nature, avec cette très belle affiche hein, de la nature. Et la musique semble sortir comme ça, les instruments semblent jaillir comme des arbres de la nature. Et la prochaine folle journée sera donc consacrée à la danse du 1er au 5 février prochain. Donc c'est vrai qu'on atteint des records extraordinaires. Vous savez que pendant la folle journée, on vend 155 000 billets à peu près, hein, 150 à 160 000 billets en 5 jours. Ça veut dire qu'il y a très peu de... évidemment, c'est un chiffre considérable pour la musique classique qui casse absolument toutes les vieilles idées ronchonnes sur la musique classique qui est en voie de disparition. Ben non, il y a 155 000 billets vendus pour la musique classique et ça marche et ça se développe. La folle journée est en région une semaine avant, donc dans les 4 autres départements des Pays de la Loire. Et le week-end qui suit, uniquement à Nantes, dans ce lieu dont je vous ai parlé. Avec 300 concerts en 5 jours, donc 300 concerts qui vont donc de 9h le matin à minuit. On est bien d'accord, hein, c'est considérable. L'offre est énorme, il y a plusieurs concerts à la même heure. Vous devez donc faire des choix. Et c'est tout ça qui en fait l'originalité. C'est-à-dire un gigantesque panel d'œuvres et de compositeurs, plusieurs centaines évidemment d'interprètes, 500 bénévoles qui s'ajoutent au personnel de la Cité des Congrès. Et évidemment, ça donne à cette folle journée évidemment une couleur très particulière que d'autres ont voulu imiter sans forcément réussir, parce que c'est vrai que l'animateur qui est au cœur de ça compte beaucoup et que le charisme de René Martin évidemment explique comment ça fonctionne vraiment grâce à lui. Ceux qui ont voulu se risquer à l'imiter ailleurs se sont souvent cassés les dents, parce que c'est pas si simple que ça, en a l'air. On va se quitter là-dessus sur 2 petits extraits qui vont vous montrer peut-être l'extrait variété, je ne vais pas déborder vraiment plus de 2-3 minutes, hein. Je voudrais vous montrer comment on passe d'un style à l'autre, c'est-à-dire que vous avez à la folle journée le classique classique, c'est-à-dire que vous avez vraiment votre content si vous aimez la musique classique, c'est-à-dire la musique savante, quelle que soit la période, baroque, romantique, peu importe, vous êtes dedans. Ici, Anne Kefelec, une amie vraiment très intime de René Martin, elle a toujours été là. René Martin a toujours considéré qu'il fallait varier chaque année les interprètes, mais en garder certains qu'il appelle, excusez-moi, des locomotives. C'est pas très sympa pour Anne Kefelec d'être comparée à une locomotive, elle qui a tant de charme. Mais vous comprenez, les locomotives, ce sont ces fidèles interprètes qui sont là depuis 95 et qui traînent, qui boostent vraiment les jeunes interprètes qui arrivent. Et Anne Kefelec, comme autrefois la regrettée Brigitte Engerer, faisait partie de ces gens-là. Donc, premier exemple, la partie la plus traditionnelle. Elle joue le concerto de Marcello, transposé par Bach. Concerto pour hautbois qui devient une œuvre pour clavier de Bach. Thank you. Kefelek à la folle journée. Mais René Martin, et je termine, on se quitte là-dessus, eh bien, il aime introduire aussi énormément de musique maintenant du monde entier. Et c'est ça aussi l'originalité, c'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas dans le classique, il est capable de nous faire entendre l'accordéon de Galliano, il est capable de nous faire entendre les tambours du Burundi, il est capable de nous faire entendre des énormes percussions japonaises, il est capable de nous faire venir de Trinidad et Tobago des orchestres qui jouent sur des bidons, qui sont absolument prodigieux, donc, et il mêle ainsi finalement à travers une thématique, il file la thématique, c'est le cas de le dire, du plus classique au plus contemporain, avec énormément de percées vers la musique dite traditionnelle. Et la boda de Luis Alonso dans la folle journée franco-espagnole que nous avons eue très récemment est un bel exemple de cette ouverture vers tout à fait autre chose, quelque chose de tout à fait léger, avec cette soliste exceptionnelle que certains d'entre eux n'ont pas oublié. Je termine là-dessus. Une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.